Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous êtes bien dans l'église? Il fait en tout cas moins chaud que dehors, mais c'est pas pour ça qu'on est là, pas vrai? C'est pour le Seigneur Jésus et pour le Père. J'aimerais commencer ces moments, je n'ai pas forcément d'annonce spéciale, juste commencer avec une question. Pendant que vous préparez vos Bibles dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, pardon. Philippiens, chapitre 3. J'aimerais vous poser une question. Quel titre, quelle position avons-nous reçu de plus le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu? Quel titre avons-nous reçu? Titre entre guillemets ou position, je ne sais pas comment trop le dire. Pardon? On est assis. C'est vrai que ça c'est une position. Ça. Mais c'est pas un titre. Non. C'est un terme qu'on utilise en éducation civique. Citoyen, citoyen des cieux. Alléluia. On le lit ? Philippiens 3, 20. Alors, tout dépend des traductions que vous avez. Il est dit ceci : mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Pardon. Le verset 20 particulièrement m'intéresse cet après-midi. « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Voilà l'état dans lequel est celui ou celle qui a été racheté par le sang de Jésus, qui a compris le sacrifice de Jésus à la croix, la portée, la valeur, l'impact qu'il peut avoir dans notre vie si nous le croyons et le recevons pour nous. Puisqu'il y en a qui y croient, mais qui n'en veulent pas. Mais là, on ne parle pas de cela, on parle de tous les hommes que nous sommes, femmes que vous êtes peut-être, et qui avons reçu la vie éternelle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre état, nous sommes devenus citoyens des cieux. Notre traduction dit « mais notre cité à nous, elle est dans le ciel ». On est citoyens des cieux. Éphésiens 2, 19, je vous le lis, il dit « ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu ». Quelle bonne nouvelle, non ? Gens de la maison de Dieu, citoyens des cieux. Alors on est peut-être encore citoyen français, citoyen de toutes sortes de pays, c'est pas gênant. En tout cas, l'important, c'est que vous soyez conscient aussi que vous êtes citoyen des cieux. Quel titre ? Je ne sais pas si je peux dire un titre. Quel titre plein d'espérance et de sens ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non ? Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes citoyens, concitoyens des cieux ? Concitoyens des saints, c'est Paul qui dit ça, concitoyens, c'est-à-dire citoyens avec d'autres, parce qu'il est en train de dire qu'il n'y a pas que les juifs qui sont sauvés, mais aussi les autres. C'était un mystère et maintenant qui a été révélé. Il dit alors, nous sommes concitoyens des saints. Concitoyens, gens de la maison de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que ça a comme impact dans notre vie ? Alors, eh bien que sur terre, bien qu'encore sur terre, hein, on est encore sur la terre, vous êtes d'accord avec moi jusque-là ? Non ? On a encore les pieds sur terre ? Peut-être il y en a, comme moi, ils sont des fois dans la lune, mais on a encore les pieds sur terre, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien que sur terre encore, notre avenir se tourne vers le ciel. C'est ça. Citoyen du ciel, ça veut dire qu'on va aller dans le ciel. On va aller y habiter. Et notre avenir, donc, se tourne vers le ciel. Toutes les douleurs, il l'a dit, Lucas, toutes les douleurs, toutes les peines, tous les combats, toutes les chutes, toute tristesse, tout vieillissement aussi, toute corruption, tout ça va disparaître pour l'éternité, pour nous. Quelle bonne nouvelle, non ? Vous êtes heureux d'être citoyen du ciel ? Soyez-le, si vous ne l'êtes pas, vraiment, cherchez dans la parole de Dieu comment le devenir. C'est très très important. Mais je m'attarderai sur nous qui y sommes déjà. prends conscience que toutes ces douleurs, hein, Madame Clarence, toutes ces douleurs, elles vont disparaître pour l'éternité. Si elle pouvait partir avant, ça serait mieux. Hein. Mais, tôt ou tard, de toute manière, elles vont partir pour l'éternité. Tout combat, toute peine, toute souffrance, à quelle espérance? J'aime me dire que je suis citoyen du ciel. Hein. C'est bien ça. Un jour, un tribun, c'est-à-dire un chef militaire, a dit à Paul, « Moi, je suis citoyen romain et j'ai acquis cette citoyenneté au prix de beaucoup, beaucoup d'argent. » Et nous, à quel prix on a acquis cette citoyenneté? Au prix de la vie de Jésus et du sang de Jésus-Christ. C'est pas quelque chose à négliger, ça. C'est une citoyenneté qui a coûté très, 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 très cher. Alors nous devons quand même réaliser quelle est la portée de cette position en Christ. Un citoyen peut prétendre à deux choses. Entre autres. Mais je voudrais m'attarder sur deux choses. Qu'est-ce qu'on dit, vous qui avez fait de l'éducation civique, les jeunes, là, comme moi, les autres aussi, je n'en doute pas. Mais vous avez eu des cours sur ce que c'était qu'un citoyen. C'est quelqu'un qui a des... aidé. C'est bien. Vous vous souvenez bien. Voilà. Un citoyen, être citoyen du ciel, ça veut dire qu'on a des droits qui sont donnés par les lois divines dans le ciel, mais on a aussi des devoirs qui sont des choses qui nous viennent directement du ciel et de Dieu. Des droits et des devoirs, deux choses sur lesquelles je voudrais simplement qu'on s'attarde un petit peu cet après-midi. Les droits, on commence par le bien, non ? On commence par le bien, pour se mettre en forme, pour les devoirs après. Les droits, un droit de cité, droit d'habiter dans le royaume ou dans le pays indiqué. Un vagabond ou quelqu'un qui est d'une autre nationalité qui vient sans papier, ou juste avec un visa, il sait qu'à la fin de son visa, alors s'il n'a pas de papier, il risque d'être mis dehors. Et en étant aidé, etc., ou en trouvant du travail, toutes sortes de choses, je ne connais pas trop les règles, mais en faisant certaines choses, on peut obtenir la citoyenneté ou un visa ou une carte de résident, quelque chose. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un droit de cité attaché à la citoyenneté. Sinon, on risque d'être rapatrié chez soi, expulsé. Et donc, on voit le droit de cité, il nous est acquis parce qu'on est citoyen du ciel. On a le droit d'avoir une place dans le ciel. C'est pas ce que Jésus a dit. On le lit ensemble, c'est rassurant quand même. On le lit. Jean 14, verset 2. Venez avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, citoyen? Eh bien, j'ai un droit de cité dans le ciel. Et le surplus, le bonus, je ne sais pas comment le dire, c'est qu'on n'a même pas payé la maison, elle nous est préparée, la place. C'est pas bien ça? C'est bien. Hein. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est bien ça, non? Un droit de cité. Merci Seigneur. Un autre droit que je peux noter, c'est le droit de rencontrer les autorités. Si vous demandez un rendez-vous avec le maire, normalement, il est obligé de vous le donner, de le prévoir. Si vous voulez rencontrer des autorités, elles sont censées vous recevoir. Le droit de rencontrer les autorités et d'être jugé aussi selon les lois de mon pays, d'après les autorités. Dans Hébreux 10, au verset 19, il nous est dit ceci, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Voilà le droit qui nous a été acquis par Jésus-Christ, le droit de rentrer dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. Vous croyez que c'est rien ça? Moi je crois que c'est beaucoup. Parce que quand on n'est pas lavé par le sang de Jésus, quand on s'approche de Dieu, Ben, on ne peut pas. D'ailleurs, c'est impossible. On n'a pas accès à Dieu si on ne passe pas par Jésus-Christ. C'est le seul intermédiaire, c'est la porte. Il n'y a que lui, c'est le chemin. Jésus est le seul. Mais sans lui, s'il n'avait pas été là, pas de communion avec Dieu. Privé, aucun accès. Mais aujourd'hui, sans voile, sans rien, on peut y aller, sans honte. On peut rencontrer le Seigneur, on peut rencontrer Dieu et on peut lui parler. Et le fait de nous approcher de Dieu, ça nous montre aussi qu'on a le droit de rencontrer l'autorité suprême. Parce que c'est pas n'importe qui le Père, c'est pas n'importe qui Jésus-Christ. C'est l'autorité au-dessus de toute autorité. Et Jésus a payé de ce grand prix qu'on vient de parler à la croix. Il a payé pour qu'on puisse rentrer et aller voir cette autorité et recevoir la grâce, recevoir les bénédictions, recevoir ça, pouvoir passer du temps dans sa présence. Est-ce que vous n'êtes pas heureux lorsque vous passez du temps dans la prière à la maison, si du moins vous le faites, de passer du temps à genoux ou assis, debout, peu importe, mais en train de parler au Seigneur, de pouvoir sentir l'Esprit de Dieu venir vous parler, vous remplir tout à nouveau. Vous n'êtes pas heureux, ça? Eh bien oui. Ça, c'est le droit du citoyen. Ça fait partie de rencontrer l'autorité. Et de pouvoir lui parler aussi. Ça, c'est un autre droit. Le droit de prier Dieu. De lui demander quelque chose. Le droit de prier et d'avoir une réponse. Encore dans Jean 14, au verset 13 et 14, c'est toujours Jésus qui nous l'enseigne. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. « Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Merci Seigneur. Dans 1 Jean aussi, on voit que si on sait que Dieu nous écoute, si on sait que le Seigneur nous écoute, eh bien on peut demander avec assurance. Et que Dieu nous donnera ce qu'on lui demande selon sa volonté. Ça aussi c'est un privilège du citoyen chrétien, citoyen des cieux. C'est ça, de pouvoir prier, demander et d'avoir une réponse. Je me souviens, il y a de ça des années, j'habitais dans un HLM, il y avait beaucoup de jeunes, et un jour ils ont dit, allez, on est 15-20, on va aller demander au maire de nous faire un parc devant les HLM. C'est bien ça, non? Parc pour pouvoir faire un peu de skate, là, vous savez, ces choses-là qui glissent, et de pouvoir un peu de vélo, tout ça. Ils ont dit, voilà, on aimerait vraiment avoir un parc, il y a un champ vaste là qui sert à rien, ça fait des années. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un parc? Eh bien, le maire, il a dit, ah ben c'est une bonne idée. Ok, je vais faire la demande et on a eu le parc. C'est bien ça, non? Eh bien, avec Dieu aussi, on peut demander des choses. Est-ce qu'on peut demander à Dieu? Je vous dis ça et je zoome un peu aussi sur ce droit de prier Dieu parce qu'il y en a qui m'ont répondu des fois. J'ai dit, mais vous demandez au Seigneur, vous avez demandé, vous avez prié? Des fois, je demande ça, mais ce n'est pas pour juger ou dire est-ce que vous avez bien prié. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'on m'a déjà répondu, ah mais non, je ne vais pas déranger Dieu, il est tellement occupé. Non mais c'est vrai, mais je ne veux pas culpabiliser ces gens, ni les juger. Mais comme quoi, si on n'a pas compris que c'est un droit que l'on a, que d'aller vers le Seigneur et dire voilà, je voudrais te demander cela, j'ai besoin de toi. Est-ce que dans Philippiens 4, c'est pas dit? Vous voulez qu'on le lise? Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Voilà des prières. C'est un de mes versets préférés. C'est 2. 6 et 7. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, ce droit de prier, il a coûté cher à Jésus. Et c'est sérieux ça. Et on ne doit pas le négliger. On doit savoir ce qu'on doit demander à Dieu. On l'a vu ce matin à Balma, c'est que des fois on demande des choses qui nous sont déjà acquises et données. On a juste à les saisir, mais nous on continue à les demander alors que c'est là. Et il est important de lire la parole pour comprendre des fois ce qui nous est déjà donné et qu'on a juste à saisir. Comme par exemple la paix. Le droit de prier et d'avoir une réponse. Un autre droit, et le dernier, le droit de jouir des richesses du pays. Ça, c'est un droit aussi. De profiter d'une autoroute bien faite. Est-ce que c'est pas bien, ça, pour les pneus de la voiture? Ah, il y a des impôts derrière, c'est clair. Mais est-ce que c'est pas bien, quand même? Je crois. Et dans le ciel, il y a un peu beaucoup des richesses. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a plein des richesses. Il y en a en abondance. Et il y en a pour chacun d'entre nous. Ne nous en privons pas. De la paix, de l'amour, toutes ces choses, elles nous sont données. Eh bien, on n'a plus qu'à les prendre, s'en saisir. On manque d'amour pour notre prochain. Eh bien, on s'en saisit. Seigneur, je viens chercher de l'amour pour lui. Merci, Seigneur. Oh, ce qu'il dit qu'il veut répandre son amour. Il répand son amour. C'est même pas qu'il veut, c'est qu'il le fait. Seulement, est-ce qu'on est ouvert, le cœur ouvert pour recevoir cet amour? Est-ce qu'on passe du temps dans la présence de Dieu pour recevoir cette plénitude de l'esprit? Et un des fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses. Oui. Jouir des richesses du ciel. Colossiens 2:10 dit, vous avez pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On a tout reçu en Jésus-Christ. On est riche. Il n'y a qu'un amen, il n'y en a qu'un qui a pris conscience. Non, je plaisante. On est riche. Mais vraiment, on est très, 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 très riche. Et il faut jouir de ses richesses. Croyez que Dieu, il se le réserve pour lui, il n'en a pas assez. Non. On est ses enfants. Est-ce qu'un enfant, au bout d'un moment, au bout d'un certain âge, s'il a soif, il ne va pas tout seul chercher à boire dans le frigo? Quand il est petit, on lui apprend parce qu'il ne sait pas se contrôler. Je le vois avec Ellie. Tout ce qu'il peut manger, il le mange. Il faut le contrôler. Il faut lui apprendre. Attention, parcimonie. Il faut un équilibre. Mais après, au bout d'un moment, s'il a soif, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même bien. Il va, il prend le frigo. Et puis il se sert. Il veut un jus d'orange. Autre chose. Mais c'est normal. Si on a réussi à bien éduquer, eh bien, ils sont équilibrés. On peut faire confiance. De plus en plus, quand la confiance s'établit entre les parents et les enfants, et puis on peut le laisser. Tranquille, bien sûr, il faut veiller, il faut prendre soin, mais après, il y a une certaine confiance. Ouais, jouir des richesses du ciel. Monsieur Olivier de Dieu, après la réunion de ce matin, me rappelait ceci, c'est que le deuxième fils du papa du fils prodigue, qu'on appelle, vous savez cette histoire du fils qui est parti dilapider tous les biens de son père, qui revient, son père fait la fête. Il fait une fête, il fait un grand repas. Mon fils qui était mort, qui était perdu, il est revenu à la vie. Ah, merci Seigneur. Et qui c'est qui vient? Qui rentre des champs? Le deuxième frère. Et qui arrive? Il dit, mais comment ça? Moi, j'ai jamais rien eu. Qu'est-ce qu'il lui dit, son père? Mais tout était là, tout est à toi. Pourquoi t'en as pas profité? Est-ce que c'est pas ce que Dieu nous dit des fois? Ce qu'il pourrait nous dire? Mais pourquoi tu te plains? Pourquoi tu t'affliges, tu t'attristes? Pourquoi tu es jaloux de ton frère, de ta sœur? Tout est à toi. Saisis-toi des promesses. Saisis-toi des bénédictions. Elles sont là. Mais nous, des fois, on perd notre temps à gagner, à mériter des choses. On se tue au travail. Et on l'a lu ce matin dans la parole de Dieu, que Dieu donne les mêmes... Il dit, en vain, il se lève tôt le matin et se couche tard le soir. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment, pendant leur sommeil. Oui, mais des fois, on se préoccupe de choses dont Dieu serait prêt à s'occuper. Et on perd du temps. Et on manque du temps pour jouir des promesses et des bénédictions de Dieu. Oui, Dieu est riche. Une femme, un jour, alors que c'était pendant un temps de guerre, il y avait un couvre-feu. Et cette femme, étant chrétienne, elle voulait aller à l'église, à une réunion, et c'était interdit. Il y avait vraiment une rébellion contre Dieu et contre l'Église. Et cette femme ne pouvait pas normalement aller à l'Église. Et à un moment, elle marche dans la rue donc, et elle rencontre un barrage. Et des officiers lui demandent, mais où allez-vous, madame? Elle dit, ben, j'ai un frère très très riche qui est mort et je vais prendre connaissance de l'héritage. Elle dit, ah, passez, madame. Elle va à la réunion, tout ça, elle passe un bon moment, merci Seigneur. Et lui disent, en partant, ils lui disent, bon, ben, bon courage, bonne chance hein, pour votre héritage. Elle fait, vous inquiétez pas. Elle arrive, elle prend une bonne réunion, elle se ressource. Elle, oh, bien, elle rentre et elle repasse, le barrage est toujours là. Alors, vous avez touché le gros lot, vous avez gagné, vous êtes contente et tout. Ah, il était tellement riche, il m'a tout donné, merci. Et elle est passée. Et oui, mais c'est ça. Je vais prendre connaissance de l'héritage qu'il m'a laissé. Et oui, il est dit qu'on est des héritiers, non seulement citoyens, mais héritiers. Amen. Dieu est riche, donc on est riche. Merci Seigneur. Ne nous privons pas. Ne vivons pas comme des pauvres. Je ne parle pas de physiquement. Quelqu'un rentrerait, n'aurait pas d'argent pour se vêtir, etc. On aurait la mission de lui donner de quoi pourvoir à ses besoins. Mais spirituellement parlant, ne vivons pas comme des pauvres spirituels alors qu'il y a de tellement grandes richesses. Ça, c'est le dernier droit que je voulais relever. Et il y a aussi donc les devoirs. Le devoir, dans les devoirs, je vais parler du service, de l'implication. Vous connaissez que la parole dit « sauver pour servir ». Sauver pour servir. Jésus a dit aux disciples de le servir. Lui-même a été le modèle en étant serviteur. Il leur a lavé les pieds. Il a pris soin d'eux. Il a vécu avec eux, lui qui était pourtant un fils de Dieu. Il a vécu avec de simples disciples. Et il n'a pas pris les érudits du peuple juif, du peuple hébreu. Il est allé les chercher en Galilée. Et quelqu'un, un pasteur, racontait ceci. Il dit que lorsqu'on examine un peu, lorsqu'on se renseigne sur l'histoire, à Jérusalem, il y avait les plus hautes écoles bibliques, entre guillemets. Il y avait les rabbins, il y avait des grandes choses et tout. Et c'était vraiment la fine fleur de la parole de Dieu. Ils connaissaient par cœur la Torah, etc. Vraiment, il y avait des choses, il y avait des gens qualifiés. Et à Galilée, c'était vraiment les ignorants de la parole. C'était des gens qui n'avaient aucune connaissance forcément, qui étaient d'ailleurs vus comme des gens à l'écart particulier. Jésus est allé chercher ceux-là pour devenir ses disciples, pas les gens de Jérusalem. Lorsqu'il était sur terre, il a fait ça. Et ça me parle du fait que peu importe nos capacités, peu importe nos moyens, comme l'a dit Lucas tout à l'heure, c'est pas avec notre grande intelligence ou nos grandes forces qu'on vient à Dieu. C'est tel que l'on est, point. On est intelligent, on a un cerveau à 3 étages avec ascenseur, tant mieux. Mais si on n'a rien de tout ça, tant mieux aussi. Dieu nous prend tel que nous sommes, d'accord? Le témoignage, c'est un devoir. Être des témoins. Dieu donne son esprit pour faire de nous des témoins. Il enverra son esprit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Je le lis, Acte 1:8, je vous le lis. Jésus parle juste avant de partir, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Dieu donne son Saint-Esprit pour être un témoin encore plus efficace. Dieu donne aussi le salut pour que nous soyons des témoins, une lumière, du sel. Un jour, un pasteur, lors d'une petite réunion, demandait comme ça, quels sont les effets du sel? Et il y a une toute petite fille qui était là, et elle dit, ça donne soif. Parce qu'un jour, elle avait tombé le sel dans la soupe, elle avait voulu manger, elle avait eu soif. Elle dit, ça donne soif. Eh bien, merci Seigneur si vous donnez soif aux autres. Vous êtes le sel de la terre. Comprenez, le sel garde de la corruption aussi. Toutes ces choses, oui, de voir le témoignage, aller par tout le monde, c'est un ordre de Dieu, un ordre de Jésus, aller par tout le monde. Il n'a pas dit ça, il a dit ça aux disciples, à ses disciples. Et on est censé, nous qui sommes baptisés, être avant des disciples du Seigneur, c'est-à-dire à l'école de Dieu, prêts à obéir, prêts à reproduire ce que Jésus faisait, des disciples. Voilà. Jésus nous donne ce commandement, allez par tout le monde, c'est-à-dire au pas de votre porte. C'est ça, par tout le monde. Ça veut dire aussi à l'extrémité, mais ne serait-ce que déjà, même à l'intérieur de notre maison, être un témoin. Des gens, quand je vais vous visiter, vous me dites, voilà, j'ai pu parler à ma femme de ménage, j'ai pu parler à mon cuisinier, mon jardinier, je ne sais pas, j'ai pu parler, ça m'a fait plaisir, j'ai donné une Bible. Mais c'est ça. Allez parler, allez prêcher la bonne nouvelle par tout le monde. C'est ça. Ça commence comme ça. La Bible dit, oh oui, qu'il y en a qui gardent la vérité captive. Il y en a qui gardent la vérité captive. Combien de Bibles on a dans nos bibliothèques? Alors qu'il y en a qui n'en ont toujours pas. Les Bibles qui sont faites pour être données, profitons non pas pour les garder une de plus pour nous, parce que la version, la couleur ou le nombre de pages, je ne sais pas, nous plaît. mais pour vraiment donner à quelqu'un qui n'en a pas. C'est important. Témoignage, et tout ça, je l'ai dit, la sanctification. Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous, ça aussi, ça fait partie des devoirs, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un devoir de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous mettre à part. Et aussi la sanctification, c'est un processus par lequel Christ se forme en nous. C'est ça. Et donc, la sanctification fait partie des devoirs du citoyen des cieux. Et un dernier, l'amour, qui est peut-être le plus grand devoir. Nous aimer, aimer le Seigneur avant tout. D'abord aimer Dieu, et après aimer les autres. Mais je ne peux pas aimer Dieu sans aimer les autres. C'est pour ça qu'il faut d'abord aimer Dieu, comme ça je suis sûr d'avoir de l'amour pour les autres. L'amour, 1 Jean 4, 7, vous connaissez bien. Bien aimé,